Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité, merci d'être là ce matin au milieu de nous, merci pour le Saint-Esprit qui dirige ce culte. Nous prions afin que vraiment, Seigneur, tu conduises toutes choses, que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et que nous puissions aller de l'avant avec ta grâce et ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer d'être un peu plus court que d'habitude. Et donc, pour pouvoir partager la parole de Dieu, comme c'était un programme un petit peu spécial. Je vais vous inviter, si vous voulez bien, je vais prendre un autre angle que ce matin au premier culte, de tir pour la prédication. Donc, 2 Samuel chapitre 16, nous allons lire 2 Samuel chapitre 16, on va lire quelques versets. Donc, de la parole du Seigneur, c'est un peu la péripétie de David qui est malheureusement donc en difficulté ici puisqu'il sera en fuite. Vous savez qu'il a fui déjà tout au long de sa vie pas mal de difficultés, notamment Saül. Comme quoi on se rappelle aussi qu'il y a des adversaires qu'il faut confronter. On se rappelle par exemple que David a dû confronter Goliath, et ce genre d'adversaire, il faut les confronter. Et puis Saül, c'était un adversaire qu'il fallait fuir. Et la Bible dit, et Paul notamment, à plusieurs reprises, dira qu'il faut fuir certaines choses, fuir ces choses. Il y a des choses qu'il faut confronter, et il y en a d'autres avec lesquelles il ne faut pas s'y frotter. Il ne faut pas penser qu'on est fort, il faut les fuir. Donc, c'est important de réaliser que dans notre stratégie de combat pour être victorieux, parfois il faut confronter, mais d'autres fois il faut savoir fuir les choses. Donc 2 Samuel chapitre 16 verset 1er, 2 Samuel 16 verset 1er, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, donc c'est le contexte, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au devant de lui avec deux ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Bon, » Tsiba en fait vient vers David, mais c'est un serviteur perfide, puisqu'il va dénigrer Méphibosheth. Il était au service de Méphibosheth, mais il va le dénigrer. Il va venir donc avec des ânes battés, des masses de raisins, etc. Donc, en passant, la Bible dit que nous ne devons pas être des ânes. Hein, mais en même temps, parfois, l'Écriture dit que l'âne peut être au service, et notamment, il fut au service de Jésus. On s'en rappelle lorsque Jésus est entré dans Jérusalem. Jésus était monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, il faut aussi avoir cette humilité. Mais pas être têtu. Verset 3, on revient. Verset 3, le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Donc il dit, et le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. » Il y avait toutes sortes de personnalités autour de David, des personnalités sincères, mais aussi des personnalités troubles, et perverse. Verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. ton fils et te voilà malheureux comme tu le mérites car tu es un homme de sang. Pouf. Vous savez, des fois, ça ne va pas dans la vie. Et David passe par un moment difficile. Et là, c'est déjà qu'il a du mal à nager, à surnager. C'est quelqu'un qui vient et qui lui met la tête sous l'eau et qui lui dit, voilà, si tu passes par là, si ton fils te fait un coup d'état, c'est parce que tu le mérites, c'est parce que tu es un homme de sang. Donc David est complètement brisé, j'imagine, intérieurement. Et au verset 9, David avait toujours Abishai. Abishai, c'est vraiment infidèle, prêt à dégainer n'importe qui faisait quelque chose contre le roi David. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort ? Maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Donc il ne fait pas dans le détail. Il avait des amis musclés à côté de lui, David. Mais comme ce fut le cas avec Saül, David va l'arrêter, il va dire « Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, s'il maudit ?» C'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David, qui donc lui dira « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Donc encore une fois, il ne rentre pas dans un conflit stérile. Verset 12, « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ?» David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Hachephim. Et là, ils se reposèrent. Donc David fait une pause maintenant. Et donc il a choisi de ne pas s'en prendre à Shimei. Et il s'attend à la grâce de Dieu. Et il dit peut-être, au vu de ce que je suis en train de traverser en ce moment, au vu de cette malédiction du jour, peut-être que le Seigneur aura pitié de moi et me fera du bien aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Jésus veut vous faire du bien aujourd'hui ? Le Seigneur veut vous faire du bien. Je ne sais pas dans quelle situation de vie vous êtes, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est un Dieu tendre et fidèle et bon, et il prend soin de ses enfants. Et tout au long de sa vie, David pourra expérimenter le soutien et le secours du Seigneur. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Verset 15, il est dit, « Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Hushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami Hushaï ?» répondit Absalom « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je ? Ne sera-ce pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble. C'était deux conseillers. Qu'avons-nous à faire ? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Une lecture un petit peu longue, quoique ça va, il y a pire, qui nous révèle donc le parcours, la saison, on va dire, de David, difficile, il descend là. Absalom est sur le trône, il règne à sa place. Et on sait qu'il usurpe le pouvoir, puisque le légitime, le fils légitime qui prendra la suite de David, c'est Salomon, le bien-aimé de l'Éternel, qui pourtant est né, nous savons, d'une relation particulière, puisqu'il sera le fils de la femme d'un autre. Mais on voit que finalement, quand on demande pardon vraiment au Seigneur, le Seigneur pardonne. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Il n'y a aucun échec que le Seigneur ne puisse purifier. Le Seigneur est bon et fidèle. Donc je disais ici, dans cette péripétie un petit peu difficile de David, dans cette période descendante, David avait autour de lui donc différents personnages. Donc on a vu Tsiba qui était un serviteur de Mephibosheth, un serviteur perfide. Puis ensuite on voit Shimei, cet homme de la maison de Saül qui va venir dans une période difficile pour maudire David, le décourager, lui faire du mal. Vous savez qu'avec les mots, on peut profondément blesser et atteindre quelqu'un. Inutile de vous rappeler cette parole que les hommes disaient en ce qui concerne Jérémie, « Tuons-le avec la langue ». La langue peut être une lance terrible qui fait du mal. Voilà pourquoi on doit faire attention à nos propos, parce qu'on peut autant donner la mort que la vie avec la langue. Choisissons de donner la vie. Amen. Ensuite, on voit qu'il y a autour de David, donc Abishai, des amis. On voit aussi qu'il y avait des vaillants hommes autour de David. Dans les moments difficiles, il avait une garde rapprochée, David, notamment Abishai. Abishai, on voit en étudiant la parole de Dieu que au jour de sa vieillesse, quand David, sur le champ de bataille, n'aura pas la même énergie pour faire face aux géants et aux combats, eh bien, il sera aidé, notamment secouru in extremis par Abishai, son ami, son copain, si je puis dire, de toujours. Et puis, il y a ensuite, bien sûr, Absalom, ce personnage sombre, et Hushai, qui est l'ami du roi. Lorsque Hushai, nous avons lu, l'archien ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom. Il va se faire passer pour un ami d'Absalom, mais en réalité, il était l'ami de David. Et c'est David lui-même qui va l'envoyer vers Absalom afin que Hushai, ce conseiller fin, puisse donner un conseil. Au final, on le sait, c'est ce qui se passera dans l'avenir, qui va être la perte d'Absalom, et ensuite David reprendra son positionnement et son trône. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement cette pensée, c'est David est roi. Amen. David est roi, et pour autant, ici, nous voyons qu'il a un ami. Il a un ami. L'archien, ami de David. Et d'ailleurs, quand il va venir vers Absalom, Hushai, Absalom va lui dire, bien voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? Il était donc connu que cet homme était ami du roi. Et je crois ce matin que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ses amis aussi. Vous savez que Dieu est un roi. Amen. Jésus est un roi. Amen. Et il est vivant. Amen. Vive le roi. Pas Absalom, mais David. Et Jésus, notre Seigneur. Et la question que je me pose, c'est ce matin, qu'en est-il de notre amitié, non pas avec David, le roi, mais avec Jésus, le roi des rois. Vous savez que Jésus avait des amis. Bon, vous avez l'air de dormir un peu. Bon, je sais que j'ai expliqué cette histoire un petit peu, et donc vos neurones se sont peut-être collés les unes aux autres, elles se sont accrochées. Détendez-vous maintenant. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pour autant, Jésus daigne avoir avec nous une amitié. Et vous voyez, quand on lit l'Écriture, on voit, par exemple, dans le livre des Proverbes, est-ce qu'on peut lire les Proverbes ? Ça va, vous les lisez ? Moi, personnellement, je les lis tous les jours, les Proverbes. Et là, je découvre une mine d'or concernant l'amitié. Par exemple, il est dit dans le premier livre, dans Proverbes chapitre 3, on peut le lire, Proverbes chapitre 3, et au verset 32, il est dit ceci. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Dieu est un ami pour les hommes droits. Pas pour les gens pervers, mais pour les hommes droits. David était un ami pour Hushaï, mais pas pour Tsiba, par exemple, et pas pour d'autres encore. Et l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il se montre comme un ami pour les hommes droits. Il y a 7 caractéristiques de l'amitié, j'ai noté. Proverbe chapitre 17, verset 17 également. Il est dit ceci, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Moi, je crois que notre Dieu, qui est un ami pour les hommes droits, il est notre ami quand on passe par le malheur, et même plus, il devient un frère. Vous savez, souvenez-vous de Jésus, lorsque il est ressuscité, que ses disciples étaient tristes, il dira ceci, « Allez dire à mes frères. » Jésus avait déjà dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Jésus avait créé autour de lui un cercle d'amis, d'intimes, si vous voulez. Mais dans le malheur, alors qu'il pleurait, le Seigneur dira, « Allez dire à mes frères. » Et dans le malheur, eh bien, l'ami qui aime en tout temps, eh bien, se montre un frère. C'est beau cela, hein ? Amen. Il est dit encore Proverbe, chapitre 18, verset 24. Il est dit ceci, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » En fait, en matière d'amis, l'important n'est pas la quantité, mais la qualité. Sans doute que, sur le plan naturel, dans notre vie, nous aurons... En tant qu'amis véritables, je parle, nous pourrons les compter sur les doigts d'une main. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus, lui, en tout temps, sera toujours là et il est l'ami fidèle et tendre. Amen. Proverbe, chapitre 27. Allez, on peut faire un petit parcours hein, avant d'entrer un peu plus. Proverbe 27, verset 6. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et il est dit au chapitre 22 et au verset 11, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » On revient à Proverbe 27, verset 9 maintenant. « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Ça fait du bien, les conseils affectueux, oui ou non ? Oui, et au verset 10, « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Amen. Ami du roi. Ami du roi, aujourd'hui, c'est ma prière, ami du roi crucifié, ami du roi ressuscité. Ce que le Seigneur cherche, frères et sœurs, ce ne sont pas simplement des serviteurs, des esclaves, mais ce que le Seigneur cherche, ce sont des intimes avec qui il pourra partager son cœur, ses projets, ses sentiments même. Est-ce que vous vous rappelez qu'il est dit concernant Moïse, que Moïse, en Exode, au chapitre 33 et au verset 11, Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Moïse avait pour lui la prière quand il entrait dans le sanctuaire. Ce n'était pas un service, ce n'était pas une contrainte. Mais c'était un temps de communion qu'il prenait avec lui. Je ne sais pas, mais en fait, dans le mot « amitié », il y a le mot « amour ». Vous voyez, quand on va dans la prière, par exemple, qu'on parle au Seigneur, ce n'est pas un devoir que l'on fait. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être contraignant. Mais c'est un plaisir, ça doit être un plaisir de se retrouver avec notre ami. Oui ou non ? Quand on vient à l'église... et qu'on ouvre la parole de Dieu. C'est bon, frères et sœurs, c'est les paroles bienveillantes de notre ami. Alors, bien sûr, on l'a lu, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Des fois, notre ami céleste, il nous dira des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens. Mais tout ce qu'il nous dit, c'est toujours pour notre propre bonheur. Alléluia. Et je ne sais pas comment vous vivez aujourd'hui cette relation avec le Seigneur. Mais il est dit de Moïse qui, pourtant Moïse, en Exode 33 et au verset 11, on voit que le contexte est particulièrement obscur. C'est un contexte où le peuple, lui, a fabriqué un veau d'or. Il est loin de Dieu, il est idolâtre. Il voit Dieu comme un empêcheur de tourner en rond. Et trop souvent, on a avec Dieu un sentiment qu'il est un père fouettard, qu'il est une idole parmi les autres idoles de cette terre. Voyez, Dieu est différent. Dieu n'est pas un veau d'or comme en Égypte. Quand la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul est allé à Athènes, il a vu là un autel parmi tant d'autres. Les Athéniens avaient la foi, un peu comme le peuple de Dieu, mais une foi mélangée. Ils avaient toutes sortes d'idoles, toutes sortes de faux dieux. Pour eux, c'était une salade niçoise, voyez. Et aujourd'hui, on est dans des temps comme ça, dans la génération du veau d'or quelque part, où pourvu qu'on parle de Dieu, ça va le faire, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être... Non, ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Je dirais que Dieu a une adresse, Dieu a un nom, Dieu a une identité et Dieu a un caractère. Dieu est bien défini dans la parole de Dieu. La vérité de Dieu n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Mais la vérité de Dieu, elle est absolue. Vous savez, aujourd'hui, on aimerait un peu mélanger tout ça, assouplir la lumière. Mais la lumière de Jésus, elle reste pure, elle reste claire et nette. Donc le contexte est un contexte où finalement Moïse vit une amitié, une intimité avec Dieu, un contexte de trouble, un contexte de confusion, un contexte de pagaille spirituelle où les gens sont vautrés dans l'idolâtrie. Mais comme du temps de Paul également, il dira qu'il avait vu un autel à un Dieu inconnu, et Paul dira, c'est celui-là que je vous annonce, le Dieu vivant et vrai, celui qui est réel, qui est véritable, et c'est lui qui vous demande de vous tourner vers lui, parce qu'il a pour vous des projets, un avenir et de l'espérance, comme on l'a dit également tout à l'heure. Moïse entretenait cette amitié. L'amitié avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit être galvaudé. C'est quelque chose qui doit être entretenu. La Bible parle, on l'a lu rapidement dans le livre des Proverbes, il est question d'un ami plus attaché. Moïse était attaché à Dieu. La Bible dit qu'il entrait dans la tente et le peuple voyait Moïse. Observez Moïse. Il entrait dans la tente régulièrement. Il s'entretenait avec lui. Il parlait avec lui. Je ne sais pas si vous avez ce genre de relation avec Dieu. Si vous entendez Dieu vous parler, comme Moïse, c'est écrit du haut du propitiatoire. Parce qu'en fait, l'amitié et la communion avec Dieu, c'est un aller-retour, c'est un échange. Nous parlons à Dieu. Vous savez, des fois, c'est un peu comme la prière. On fait les prières religieuses, notre Père qui est aux cieux, ou quand on est à table, par exemple, quand on fait la prière pour rendre grâce. En fait, on fait la prière pour apaiser notre conscience, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, voyez. Donc, finalement, notre cœur n'est pas toujours dans la prière. Et il est important qu'on entre en communion, qu'on vive une intimité avec le Seigneur. Et que comme Moïse, on soit conscient. Est-ce que ce matin, frères et sœurs, est-ce que ce matin, alors peut-être qu'on est aidé avec l'ambiance, avec la musique, en plus on a eu les fumigènes, donc là c'est la Shekinah qui est là dans l'église ce matin, n'est-ce pas ? Mais quand on est tout seul, lundi matin, avant de partir au travail, est-ce qu'on fait notre prière ou est-ce qu'on a une intimité avec le Seigneur ? Vous savez, on chante « Je suis ami de Dieu ». Je suis ami de Dieu. Votre pasteur est l'ami de Dieu. Je ne parle pas d'irrévérence avec Dieu. Vous savez, des fois, il y a une différence entre ami et copain. Dieu, ce n'est pas le copain. Dieu, c'est notre ami, notre intime. C'est celui qui partage avec nous ses secrets. C'est celui qui peut nous prévenir, c'est celui qui nous indique la voie, c'est celui avec qui on prend plaisir à vivre et à être chaque jour. Mais pour cela, il faut entretenir tout cela. Il faut entretenir cette relation. La Bible dit « Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse ». Des fois, les gens disent « Mais j'entends pas Dieu me parler ». Et moi, je vous pose la question, où en es-tu en ce qui concerne ton intimité, ton amitié avec Dieu ? Des fois, on a l'impression que, en entendant certains, que Dieu joue à cache-cache. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. « Nous avons trouvé », disaient les disciples, le Messie. « Nous l'avons trouvé ». Et le Seigneur ne joue pas cache-cache avec nous. Quand on lui parle, il nous répond. Normalement, votre ami, quand vous lui passez un coup de fil, il vous répond. Vous savez, on peut être sélectif parfois. On peut faire du tri. Mais quand quelqu'un qui nous intéresse nous appelle, on décroche tout de suite. On n'est jamais trop occupé pour notre ami. Amen. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. En fait, on se rend compte que il était le seul à être l'ami de Dieu. Mais vous voyez, la bonne nouvelle dans la nouvelle alliance, c'est que nous pouvons tous, et nous sommes tous, en fait, les amis de Dieu. Tu dis, moi, pasteur, je suis l'ami de Dieu. Oui, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'intime de Dieu. Encore faut-il le réaliser, que Dieu désire construire avec toi une amitié. Et il est dit au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse, face à face. Donc, il ne jouait pas cache-cache, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait plus du milieu de la tente. Alléluia ! Josué vivra aussi une belle relation avec le Seigneur. Il ne quittait pas la présence de Dieu, mais Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Il y a un autre homme qui a été appelé ami de Dieu. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous vous rappelez ? Qui est cet homme ? Abraham. Abraham a été également appelé l'ami de Dieu. Il est dit dans Jacques chapitre 2 et au verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Abraham fut aussi appelé l'ami de Dieu parce qu'il a cru au Seigneur. Abraham, c'est le père de la foi, le père de tous les croyants. Et si comme Abraham, nous croyons nous aussi dans le Seigneur, nous pouvons entrer dans une intimité avec Dieu parce que nous sommes rendus justes de tout face à tous nos péchés. Frères et sœurs, ma question est celle-ci. David, le roi, avait des amis. Dieu, notre Père, et Jésus, notre Seigneur, cherchent des amis, des frères. Est-ce que nous voulons nous aussi entretenir et entrer dans une vraie intimité avec le Seigneur ? Le Seigneur désire nous révéler des choses, je le crois, et le Seigneur, dans les moments difficiles, sera toujours là. Le Seigneur n'abandonnera jamais son ami. Il n'abandonnera jamais ses intimes. Je disais et je le redis concernant Lazare, le Seigneur dira dans Jean 11, verset 11, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Lazare a été fauché par la maladie. Lazare a connu un moment extrêmement difficile. Il est pour la plupart maintenant un cas désespéré, sauf pour Jésus. Jésus ne laisse pas tomber ses amis. Jésus est fidèle. Alléluia ! Jésus est fidèle. Il est vivant. Amen ! Et il va ressusciter son ami Lazare. Je ne sais pas, peut-être que tu te sens mort, tu te sens triste, désespéré. Tu as l'impression que ton amitié avec le Seigneur n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais te dire que ça ne dépend pas de toi. Le Seigneur est un ami pour toi. Le Seigneur t'aime, il est là près de toi et il ne t'abandonnera jamais. Et ce qu'il désire, c'est chaque jour, eh bien, entretenir avec toi une intimité, une relation personnelle qu'il faut toi-même également cultiver. Si tu vas chaque jour dans la présence de Dieu, eh bien, tu cultiveras cette amitié et tu apprendras de plus en plus à discerner sa voix. Voyez, par exemple, il est dit concernant Samuel, il ne savait pas trop si c'était Dieu qui lui parlait. À un moment donné, il dira « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais il ne savait pas trop si c'était le Seigneur ou si c'était Élie. Il avait des problèmes de discernement parce qu'il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. Mais un ami, tu connais sa voix. Tu connais son timbre de voix, tu parles avec lui et tu sais ce qu'il te dit. Et ce qui est formidable, c'est que quand on cultive cette intimité avec Dieu, on ne peut pas se tromper dans la vie. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, il ne cherche pas, ça c'est aussi le miracle de la grâce, que des serviteurs, mais il cherche des intimes, il cherche des amis, il cherche de la communion avec toi et avec moi. Et ce qu'il aimerait, c'est pouvoir partager, parler avec nous et se réjouir avec nous. Et je terminerai par cette pensée, quand on entretient une vraie intimité avec le Seigneur et qu'on prend le temps avec le Seigneur, on n'est plus non plus dans le chronomètre. Voyez ? Quand on passe par des moments difficiles, le temps est extrêmement long. Mais quand on est dans la présence de notre ami que l'on aime et qui nous aime, le temps passe vite. Le temps passe trop vite. Et quand tu pries, quand tu es avec Dieu, je ne sais pas comment tu vis ces moments, quand tu chantes des cantiques, quand tu lui offres un culte, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur cherche des moments de qualité. Il cherche notre concentration. Il ne faut pas galvauder ces moments, négliger ces moments. Alors ce matin, soyons, ou cet après-midi, ce midi, soyons des amis de Dieu. Soyons des amis de Dieu comme ce fut le cas de Moïse au milieu de la pagaille environnante. Soyons des amis de Dieu. Voyez, l'intimité avec Dieu, elle ne dépend pas de l'atmosphère générale. L'intimité avec Dieu, elle ne dépend pas du contexte, jamais. On peut être au milieu et à côté de gens éteints qui n'entendent plus Dieu leur parler et nous être branchés en réseau ADSL et entendre clairement la voix de notre Dieu parce qu'il est notre ami. Jésus disait à l'église de la fin des temps, une église apostate qui avait, hélas, perdu l'intimité, la communion, l'amitié de Dieu. Puisque, vous le savez, Jésus dira à Laodicée que c'était une église qui était tiède, qu'il était sur le point de vomir de sa bouche, parce qu'il n'y avait plus l'amour, il n'y avait plus l'essentiel. Mais Jésus dit, au milieu de la pagaille, au milieu de la génération du veau d'or, si vous voulez, où la relation de la plupart était absente avec lui, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, voyez, quand on est ami, on parle. Quand on est ami, la voix de l'autre compte. Eh bien, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, le Seigneur désire partager avec nous une intimité, quel que soit l'environnement. On ne pourra jamais accuser ceci, cela, j'avais pas le temps, le monde était trop méchant, j'étais fatigué. Non, 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 non. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelés mes amis. Et le Seigneur désire, je le crois, peut-être en ce dimanche de Pâques, pour certains d'entre nous, renouer une intimité, une amitié de qualité. Il y a un verset qui dit, il faut être intentionnel dans l'amitié. N'abandonne pas ton ami. J'aimerais nous dire que jamais Jésus nous abandonnera. Mais nous, ne l'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre ami céleste. Restons lui fidèles et cultivons avec lui chaque jour, dans sa parole, dans sa présence, une relation vivante, profonde, et le Seigneur sera glorifié. Est-ce que vous avez soif d'une amitié avec Dieu ? Oui, moi j'ai soif d'une amitié avec Dieu. J'ai soif de progresser encore dans cette amitié avec le Seigneur. La Bible dit que celui qui est pur de cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Moi, je veux être un Hushai ce matin. Je veux être l'ami du roi et je veux le glorifier. Je veux cultiver cette intimité comme Moïse l'a cultivée. Il entrait, il sortait pour relationner avec Dieu, pour entendre sa voix. C'est exactement ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et ne dis pas « je ne suis pas digne », ok ? Ne dis pas « je ne suis pas digne », »,« je ne mérite pas », »,« j'ai trop péché ». Ne dis pas ça. La Bible dit que Moïse, quand il entrait dans la tente, il entendait la voix au-dessus du propitiatoire. C'était là où il y avait le sang. Si Dieu nous est propice, c'est parce qu'il voit le sang. C'est Pâques aujourd'hui. Il voit le sang et parce qu'il voit le sang, il nous est favorable. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec un regard bienveillant et il nous bénit. Nous sommes bénis, alléluia! On peut nous maudire, on peut nous critiquer, on peut nous lancer des pierres comme Chiméi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être béni de Dieu et c'est d'être comme Hushai, un ami du roi, d'être un intime de Dieu et ça, ça fait toute la différence. Amen. Amen. On va se mettre debout. Seigneur, merci. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que ce midi, Seigneur, tu vois ta parole, tu veux que nous devenions tes intimes. Tu veux que nous ayons le roi pour ami. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas de nous que des esclaves. Tu ne fais pas de nous que des serviteurs. Mais Seigneur, il y a une table de bénédiction. Alléluia. Et Seigneur, tu veux nous parler encore. Tu veux nous parler comme un homme parle à son ami. Seigneur, tu vois peut-être un bien-aimé ou une bien-aimée qui n'entend plus le son de ta voix, qui a peut-être négligé à abandonner ton intimité, ton amitié. Je te prie, Seigneur, que ce matin, l'amitié avec toi soit renouée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends soin ce matin de chacun de tes enfants et tu veux encore une fois, Seigneur, souper avec nous. Tu veux déjeuner avec nous. Tu veux être toujours avec nous. Seigneur, je te prie d'enlever la superficialité. Je te prie d'enlever, Seigneur, la religiosité. Je te prie d'enlever l'esprit d'esclave. Seigneur, alors que nous sommes amis de Dieu, nous sommes intimes de Dieu. Seigneur, merci parce que tu vas parler encore cette semaine à des bien-aimés. Tu vas encourager, tu vas fortifier. Seigneur, nous voulons vivre cette intimité avec toi. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes jamais dans le malheur. Tu te montres un frère. Dans le malheur, tu es là, Seigneur. Tu nous soutiens dans les moments de désappointement, dans les moments de difficulté. Tu dis, notre ami Lazare est mort, dort, mais je vais le réveiller. Seigneur, merci de venir secourir ton ami qui est en difficulté, ton ami qui souffre, dans le nom de Jésus. Seigneur, encourage ce matin. Nous disons à toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, parce que tu es là près de nous, amen, et tu nous bénis en abondance. Fais du bien, Seigneur, encourage, mon Dieu, tes fils et tes filles, et qu'ensemble nous entrions dans cette amitié, que tu sois heureux aujourd'hui de vivre avec nous, Seigneur, une communion parfaite que rien ne voile, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, peut-être pour quelqu'un qui est souffrant, malade, découragé, quelqu'un qui a décroché, quelqu'un qui s'est refroidi. Seigneur, passe ce matin dans les rangs et je te prie de délivrer, je te prie de guérir, je te prie de renouveler par la puissance du Saint-Esprit et que chacun dans ce lieu ait une véritable relation avec toi. Et le peuple de Dieu dit amen. On peut acclamer Jésus le roi. Amen.